Donc merci de m'avoir invité à apprendre plein de choses parce que donc effectivement, comme vous l'avez dit, je suis spécialiste du genre et du judaïsme en France, donc je n'y connais rien à ce dont il est question aujourd'hui. En même temps, ça fait écho à ce qui a été dit, notamment dans ces communications, fait évidemment écho, enfin je vais y revenir, au fait que ce qui m'intéresse, dans les choses qui m'intéressent, c'est la question de la diversité interne à chaque contexte religieux. Je vais peut-être y revenir avec des petites comparaisons. Je dirais que ce qui m'a le plus intéressé là, et ce que je vais mettre finalement en avant peut-être, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses et je suis un peu perdue dans tout ce que vous avez dit, mais c'est cette question de la manière dont les différentes communications mettent en avant cette diversité interne des pratiques. Alors avec en partant d'approches méthodologiques qui sont différentes, effectivement, sur comment on met en avant alors à la fois la pluralité des pratiques et puis peut-être dans certaines communications, ce qu'on a surtout c'est la pluralité des discours sur les pratiques, parce que suivant la méthode, on n'a pas forcément accès directement aux pratiques. Cette pluralité, alors dans la première communication, on l'obtient par l'analyse des trajectoires, où on voit comment il y a des choses qui changent, suivant à qui on se confronte, etc., suivant les comparaisons dans les fratries, qui sont une première manière de montrer cette pluralité, qui est particulièrement développée donc, dans la communication d'Etienne Smith, où là, on rentre encore plus dans, effectivement, les configurations familiales. Effectivement, cette idée très intéressante hein, d'aller regarder, parce que c'est pareil, évidemment, quand on travaille sur le judaïsme, dans une même famille, entre guillemets, juive, vous n'avez pas que des gens qui ont tous la même pratique du judaïsme, c'est même, ça n'existe pas, en fait. Donc, d'aller regarder le pluralisme au sein d'une même famille, donc là, le pluralisme religieux, mais évidemment aussi, y compris à l'intérieur d'une même religion, les pluralités de trajectoires, d'identification et de pratiques. Même quand on a la même identification. Dans la communication de Laure Guérin, là, on est sur la pluralité des rapports à l'espace, et sur ces espaces qui sont ce qui est très intéressant, c'est sur cet emboîtement des espaces, c'est-à-dire à l'intérieur de la résidence sociale, où est ou pas cette salle de prière, est-ce qu'elle s'étend ou pas à des espaces périphériques, les couloirs, les choses comme ça. Là, c'était peut-être moins présent, mais effectivement, dans le texte, hein, cette idée de la pratique religieuse, elle est en même temps pas que dans la dite salle de prière, elle peut être aussi dans les logements individuels. Donc d'aller regarder précisément des emboîtements d'espace, finalement, je vais y revenir peut-être tout à l'heure, et donc une pluralité derrière ce qui paraîtrait être l'espace de culte, point, en fait, c'est pas du tout ça, c'est des espaces beaucoup plus fragmentés qu'il n'y paraît, et qui sont en plus emboîtés dans la rue, le quartier, la mairie, donc cette question-là, où on est sur les espaces, et où effectivement on appréhende, là, cette fois-ci, la conflictualité autour des rapports à l'espace. Alors, vous n'êtes pas tellement revenu sur la méthode, mais effectivement, une des questions de méthode, là, ici, c'est comment vous avez à la fois... vous avez parlé d'observation de réunion à la mairie, hein, donc comment... je reviendrai après sur d'autres questions, mais comment on fait pour observer ces confrontations à la fois dans les discours et puis dans les pratiques? Est-ce que vous avez eu accès à des observations de la pratique, justement, et des usages, ou est-ce que c'est uniquement par discours interprété que vous avez un petit peu ces positionnements différents sur qu'est-ce qu'un bon espace, pas un bon espace, et ainsi de suite. Et puis dans la dernière communication, cette question-là, cette fois-ci, là, on est plus sur le changement que sur la pluralité interne, mais je reviendrai peut-être sur les questions de positionnement. Est-ce que dans l'école coranique, parmi les familles, etc., il y a des visions différentes, des nuances dans les manières de présenter ce moment particulier du Majlis? Est-ce que certains le présentent plus que d'autres comme un moment religieux? Est-ce que certaines le présentent plus que d'autres comme un moment spécifiquement mahorais? Enfin, sur quelles sont un petit peu peut-être la diversité interne des manières de se représenter un même moment rituel, si tant est qu'il soit présenté comme un rituel justement, ou comme un moment de fête collective finalement. Donc ça c'était un petit peu le petit premier point que je voulais mettre en avant, un petit peu sur cette question de comment vos différentes communications, de manière très intéressante, permettent d'avoir un regard qui... Enfin, on est là pour ça souvent en sociologie, hein, qui désessentialise l'idée que, genre, il y a un seul islam, etc. Donc, on a évidemment les mêmes questions sur le judaïsme. Et donc, en allant regarder la diversité des pratiques et des discours sur les pratiques. Là, sur cette question de... Alors, la première diversité, en général, qu'on va regarder, et qui est parfois présentée comme une opposition un petit peu... polaires, dichotomiques, c'est ceux qui sortent et ceux qui restent, ce qui était présent notamment dans les deux premières communications surtout, mais on pourrait y rajouter de manière très physique la question de sortir ou pas de l'espace de la résidence sociale, donc est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on reste de là où on habite pour pratiquer, mais donc c'est notre question, mais donc sur cette question de la sécularisation, ou pas. Hein. Donc là, c'est surtout les deux premières communications où effectivement la communication de Géraldine Bozek commençait avec cette question de finalement la continuité, c'est quand elle reste et puis par la différence avec celle qui sortirait et je les trouve pas. Donc ce qui l'emporte, c'est la continuité. Là, je voulais revenir un petit peu. Enfin, en fait, la communication dit des choses beaucoup plus subtiles que ça sur effectivement le fait que les travaux sur alors là, je vais repartir de ce que je connais sur sécularisation et genre. Vont justement montrer que la sécularisation, c'est des processus, effectivement, c'est pas une opposition entre ceux qui restent et ceux qui partent, notamment historiquement, comment la socialisation est effectivement un processus, dans le cas, ce qui a été le plus travaillé, le christianisme en Europe, au 19e, comment effectivement la sécularisation est un phénomène genré qui va concerner d'abord les hommes beaucoup plus que les femmes, parce que des nouveaux espaces publics s'ouvrent aux hommes et pas aux femmes. Donc du coup, c'est au 19e que, dans le christianisme, se développe un discours qui est nouveau de « la religion, c'est une affaire de femmes ». Et donc les travaux sur sécularisation et genre vont montrer que ce qui est intéressant dans ce qui change avec ces processus de sécularisation, c'est pas seulement qu'il y en a qui rentrent, qu'il y en a qui sortent, plus que d'autres de la pratique religieuse, mais c'est que cette nouvelle configuration change la division du travail entre hommes et femmes sur qu'est-ce que c'est que la religion. Et donc dans le cas du christianisme, en fait dans le cas du judaïsme, c'est pareil mais différent, au 19e émerge un discours, mais qui est totalement nouveau, parce que ça n'a rien à voir avec la tradition, qui est que c'est les femmes qui transmettent la religion, et que la religion c'est une affaire de femmes, ça se transmet, tout ça, machin, et dans un contexte où il y a moins d'institutions religieuses, et donc les femmes ont un nouveau rôle qui est de transmettre le religieux. Et puis au XXe siècle, dans le cas du judaïsme, il y a des trucs qui se réinversent, c'est-à-dire que réapparition d'institutions juives, d'écoles juives, etc., qui vont là, cette fois-ci, déposséder les femmes de ce rôle de transmission au profit d'institutions. Alors cette longue parenthèse, pour effectivement poser peut-être plus la question sur les différentes communications, de plus finement, qu'est-ce qui dans ces processus change aussi ou pas, parce que ça change pas toujours, et surtout est diversifié suivant, suivant les pays d'origine, suivant les contextes, les classes sociales, etc., parce que enfin, dans le cas du judaïsme, il y a des différences très fortes, suivant les régions d'Europe, suivant les milieux sociaux, sur est-ce que ou pas les femmes prennent un nouveau rôle religieux. Mais donc, effectivement, qu'est-ce qui change dans la division sexuée du travail, au sens de qu'est-ce que c'est que le rôle, est-ce qu'il y a un rôle spécifique des hommes, des femmes en matière de transmission religieuse dans cet espace particulier qu'est la famille, parce que c'est quelque chose qui est finalement, donc suivant les communications, alors notamment il y avait des choses très intéressantes sur dans la communication d'Étienne Smith, hein, sur cette question des trajectoires notamment masculines de conversion à l'islam, où vous mettiez en avant le rôle de sociabilité masculine, enfin de sociabilité entre hommes, et j'avais un peu des questions sur quid des sociabilités entre femmes et de ce qu'elles produisent ou pas comme trajectoire religieuse, et qu'est-ce qui explique que le cas échéant ces sociabilités ne soient pas organisées de la même manière et que la saillance notamment du religieux n'y soit pas exactement similaire. Bon, je m'égare, mais donc effectivement, c'était un petit peu aussi une question plus générale, hein, sur et aussi la dernière communication, où on voit très fortement, alors là, devenir minoritaire, etc., ce qui change en termes de place de l'institution religieuse dans les transmissions, y compris familiales. Alors, je demandais ce qui changeait par rapport au contexte maorais, est-ce qu'on est là face à un cas ou pas de, quelque part, délégation à une institution religieuse, l'école coranique, de transmission qui pourrait sinon être d'ordre familial, ou est-ce que les deux coexistent? Enfin voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Non, elle n'est pas claire. Est-ce qu'effectivement, on est sur un cas où finalement l'école coranique prend plus de rôle que ce qu'elle avait à Mayotte et remplacerait quelque part les transmissions que la famille ne fait pas ou ne fait pas, n'arrive pas à faire, n'a pas le temps de faire, n'a pas les supports pour le faire, ou est-ce que c'est pas si différent que ça, c'est-à-dire que à Mayotte comme en France, il y a coexistence d'un rôle de l'école coranique et d'un rôle de la famille dans les transmissions religieuses. Ça va ? Et là-dedans, effectivement, la place du genre, hein, là-dedans, c'est-à-dire est-ce que les enfants des deux sexes sont inclus de la même manière dans les deux contextes, et est-ce que les parents des deux sexes jouent des rôles similaires dans les deux cas. Je pense qu'il est-ce qu'il me reste une minute ?
Non.
15 secondes. Alors, 15 secondes. Donc, il y avait deux autres points que je ne développe pas, qui étaient très intéressants en termes de diversité interne, qui étaient, un, la question de... Donc, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, des espaces emboîtés de la pratique, hein, c'est-à-dire que là, les différentes communications permettent de voir plein d'espaces différents. Celui du contexte, la question du contexte urbain, du voisinage. Alors, c'est présent, en fait, dans... Il y a une communication, c'est très présent, mais dans les communications de... Dans toutes les communications, en fait, cette question de... Est-ce qu'on est dans un contexte où on est dispersé ou bien où on est regroupé ? La question des discussions ou pas avec l'échelon mairie ou avec l'échelon voisinage, notamment les voisins hostiles. Est-ce qu'on est dans un contexte où il y a une mosquée ou pas ? La question des sociabilités locales, qui est très présente aussi, hein, donc cet espace des sociabilités informelles. L'espace du logement, du quartier, du pavillonnaire, pas pavillonnaire, résidence sociale ou pas, etc. Il y a des espaces qui ont été finalement moins abordés, qui sont les espaces associatifs, notamment pour les étudiantes, par exemple. On peut se demander est-ce qu'elles sont passées par des associations étudiantes ou des associations de quartier ou autres qui changent un petit peu les rapports aux choses. Et puis, je conclue là-dessus sur les espaces de formation, les espaces scolaires, qu'ils soient religieux, qu'ils soient pas religieux, qui évidemment participent beaucoup à la diversité interne de chaque contexte religieux, c'est-à-dire y compris quand on est dans le même groupe religieux, etc., tout le monde ne passe pas par les mêmes lieux de formation, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient pas religieux, et ils ont des effets très forts, effectivement, dans beaucoup de trajectoires, par exemple, féministes et religieuses, quelle que soit la religion concernée, le contexte le passage par l'université joue un rôle très très fort de confrontation avec d'autres pratiquants, de... rapports aux textes différents qui vont faire qu'on va contester la coutume, etc. Donc, toute cette question aussi de décommunication de la scolarisation du religieux, hein, soit effectivement qu'on critique les coutumes au nom des textes, soit qu'on remette une forme scolaire par rapport à du religieux dans la dernière communication. Donc, ce rôle, effectivement, des espaces de formation dans le développement, ou pas, hein, de la diversité interne à un même contexte religieux.